Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour Elisabeth.
Bonjour Marlène, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. La France bouge même pendant l'été. Chaque jour entre 13h10 et 14h, nous découvrons ceux qui construisent le monde de demain. Entrepreneurs, élus, monde associatif. Ils sont là, ils osent, ils ont l'audace de se lancer même dans ce moment de crise. La relance économique passe-t-elle par les territoires? En partie oui, et nous allons découvrir des endroits pour créer, innover, développer des idées pour favoriser le lien social. Ces endroits, on les appelle des tiers-lieux. Il y en a près de 1400 en France et c'est le dossier du jour. Ce sera après le pitch d'un entrepreneur qui se lance, challengé par notre coach et bien sûr la solution. Aujourd'hui, une solution pour des emballages plus faciles à recycler. Fanny Rascle nous dira tout. C'est ça la France qui bouge, même pendant l'été.
Europe 1.
La France bouge à mes côtés pendant toute l'émission. Fanny Rascle de la rédaction d'Europe 1. Bonjour Fanny.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous.
Et Gilles Van Der Potten, bonjour Gilles.
Bonjour tout le monde.
Directeur de Reporters d'Espoir. Gilles, on compte sur vous pour challenger, bousculer, applaudir nos entrepreneurs ou les associations qui passent par la France bouge. Dans chaque crise, et on le voit chaque jour, il y a une opportunité. Et certains saisissent cette opportunité pour se lancer comme vous. Bonjour Solène Bocquillon-Leguasiou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Soft Kids. Soft Kids, ça a été lancé en avril dernier. Il fallait oser, hein, parce qu'on était en plein confinement quand même.
C'était prévu, et puis je pense que ça a aidé aussi.
Ça a aidé. Ben, vous allez tout nous raconter. Soft Kids, c'est une application pour familiariser les enfants aux soft skills. Les soft skills, ce sont les compétences comportementales, comme l'intelligence émotionnelle, l'empathie, la résolution de problèmes, entre autres. Soft Kids s'adresse à des enfants âgés de 6 à 11 ans, et vous tentez de répondre à travers votre application à cette question. Pourquoi attend-on d'être adulte pour développer tous ces savoir-être? De quoi s'agit-il? C'est parti Solène, on vous écoute, vous avez 1 minute 30.
Alors oui, donc SoftKids, c'est la première application familiale pour développer les soft skills des enfants, donc les compétences comportementales. Il y a aujourd'hui les experts qui nous disent que les compétences du 21e siècle, c'est principalement ces soft skills. Moi, j'étais DRH à l'international pendant 15 ans, donc j'ai vu l'importance des soft skills. Et quand j'ai commencé dans mon ancien poste à travailler sur les métiers de demain et les compétences du futur, j'ai vu que les soft skills étaient indispensables. Et donc, on a eu avec mes associés l'idée de faire ça sous forme digitale avec une application qui a des jeux, des quiz, des vidéos, des challenges, et dont la principale différence avec les applications qu'on connaît, c'est que c'est quelque chose qui se fait en famille. C'est une application familiale qu'on fait avec ses parents, et les parents reçoivent également des conseils et des astuces. On a commencé, donc, comme vous le disiez, par faire un lancement en avril avec un premier programme pour cultiver la confiance en soi. Qu'on a donc mis disponible sur iOS. Et on a suivi ça, parce qu'on a eu des très bons retours, avec une campagne de crowdfunding qui s'est finie au mois de juin, où on a réussi cette campagne. Et ça va nous permettre en fait, de développer les prochains programmes jusqu'à la fin de l'année, qui sont la politesse et le savoir-vivre, développer son esprit critique, la persévérance et la diversité et l'inclusion. Donc voilà, on veut vraiment aider les enfants à être épanouis, les accompagner pour un monde de demain et avoir une bibliothèque digitale disponible pour les familles.
Merci Solène, c'était très complet votre pitch. Alors je me tourne tout de suite vers notre coach Gilles Van Der Potten. Vous en pensez quoi de son pitch à Solène? Ça vous a convaincu?
Il est très bon, je suis très admiratif de cette initiative. J'ai vu même sur l'App Store, puisque l'appli est déjà disponible, elle est déjà testée, une très bonne note de 4,8 sur 5 et des commentaires très élogieux. J'ai notamment noté des parents qui disaient que c'est un kit de survie idéal en période de confinement. Donc ça a aidé un nombre significatif de parents à traverser cette période mouvementée. Mais comme je suis coach, j'ai une petite question pour la gratter. Pourquoi utiliser un anglicisme pour nommer ce qu'on pourrait nommer compétences douces, compétences humaines, savoir comportementaux, savoir-être? Est-ce que vous ne pensez pas que vous auriez justement quelque chose à faire alors que le Made in France redevient tendance pour, pour cultiver la culture
mieux,
et donc la langue?
Oui, alors c'est un parti pris parce que, comme je vous le disais, j'ai une expérience à l'international. J'ai travaillé donc pendant 15 ans principalement avec l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Et j'ai une ambition internationale, c'est-à-dire que SoftKit, c'est également disponible aujourd'hui dans tous les pays du monde sur l'Apple Store.
Donc vous l'avez traduit ?
Donc je l'ai traduit en anglais.
Déjà.
Donc il est déjà, j'ai déjà des téléchargements aux États-Unis, dans d'autres pays européens.
Je pense que c'est important de le dire dans votre pitch.
D'accord.
Justement, parce que en précisant cela, on comprend immédiatement, parce qu'effectivement, cette question, moi aussi, je me la suis posée, c'est pourquoi une appli qui porte
comme
un nom.
Comme j'étais
en
européen, je me suis dit, je vais parler de la France. L'ambition est vraiment internationale. Et donc, moi, vous l'avez compris, c'est un jeu de mots, hein, les soft skills pour les kids. On a la version espagnole qui va arriver au mois de septembre.
Alors, on développe comment ? C'est quoi ces savoir-être, hein ? Parce que finalement, on n'est pas dans les mathématiques, on n'est pas dans le français, ouais. On est sur des compétences dont on a besoin aussi en entreprise, énormément. Et ça n'a jamais été mis vraiment en avant. Maintenant, désormais, on s'intéresse davantage à la personnalité et à tous ces talents plutôt qu'à des scores, hein, des résultats d'examen. Alors,
j'ai envie de dire, ça n'a pas été mis en avant jusqu'à présent dans les entreprises.
Ça arrive, moi
j'étais dans une entreprise anglo-néerlandaise très connue et je n'ai fait que des recrutements aux soft skills pendant
mes 15 années. Arrive en France. Alors donc, comment on mesure ça commence...
Alors en fait il faut vraiment, et c'est là où c'est un peu compliqué pour les enfants, c'est qu'il faut arriver à avoir de la réflexion personnelle. Parce que tout vient...
Par exemple ?
Bah, par exemple, sur la confiance en soi, on va aider les enfants à trouver leur super pouvoir. On va dire, voilà, vous êtes, il y a toute une liste, donc c'est des petits dessins qui passent et on va leur dire, est-ce que tu es bon dans les dessins, est-ce que tu es bon, tu es le meilleur dans les dinosaures, tu connais tout sur les dinosaures, est-ce que tu es super bon quand tu fais des dessins, voilà. Et donc, c'est en les aidant à avoir des réflexions personnelles sur eux qu'on arrive à leur faire prendre conscience, et c'est vraiment le retour des parents, parce que les parents nous disent « mais ça a été un cadeau pour moi, parce que j'ai discuté avec mon enfant, et je pensais par exemple que mon enfant se trouvait quelqu'un d'organisé parce qu'il prépare son cartable tout seul tous les matins. »
Et en fait, pas du tout.
Et lui, pas du tout. Donc c'est vraiment là où on voit...
Alors, il va en tirer quoi de cette information ?
Il va avoir la liste de tous ses super pouvoirs et il va voir qu'il en a plein. Et
qu'il ignorait.
Et la même chose avec, on leur demande aussi de réfléchir à tout ce qu'ils ont appris depuis qu'ils sont nés. Parce que quand on est en primaire, on pense que tout a toujours été comme ça, qu'on n'a jamais appris à marcher, à faire de la trottinette, à faire du vélo. Et quand ils arrivent avec cette liste où ils ont appris tellement de choses, ça les booste.
Gilles ?
Oui, donc
famille,
ça leur offre
convaincue.
Une introspection quelque part. Ouais. C'est peut-être la première fois qu'ils vont être amenés à réfléchir sur eux-mêmes. Mais j'ai vu aussi que vous aviez des projets, par exemple, sur l'esprit critique. Ça, c'est intéressant aussi pour apprendre à décoder le monde. Ça, c'est intéressant, mais c'est d'un autre ressort.
Alors ça, c'est un projet que je fais en partenariat avec une start-up qui s'appelle La Carabane, qui fait des ateliers philo, parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que nos enfants ils aient un esprit critique, qu'ils arrivent à
dès
voir quels sont les fake news dès le début.
Et qu'on n'attende pas le lycée pour s'y mettre. Merci à vous, Solène Bocquillon-Leguaziou. Ça s'appelle Soft Kids. C'est une application pour familiariser les enfants, mais aussi leurs parents aux fameux soft skills, hein, toutes ces qualités humaines que l'on ignore quand on approfondit pas le sujet, tout simplement. Merci à vous.
Il est 13h20.
Europe 1.
Un problème, une solution. La chromatogénie, c'est une solution qui existe, hein, qui a été choisie par Fanny Rascle pour des emballages plus faciles à recycler. À tout de suite.
Jusqu'à 14h, vous écoutez La France bouge avec Elisabeth Assayag. Et avant d'ouvrir le dossier du jour, on sensibilise à l'importance du recyclage sur Europe 1. C'est l'heure de la solution, Elisabeth.
Et oui, c'est très important le recyclage. Fanny Rascle, vous avez sélectionné une solution pour inventer des emballages plus faciles à recycler et à 100%. Hein.
Citeo, qui coordonne entre autres un important travail de recherche autour de la chromatogénie pour faire naître ce matériau du futur, ce matériau recyclable à 100%. Bonjour Jean Hornin.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Citeo. Citeo, c'est l'organisme chargé d'organiser et de financer la collecte et le recyclage des emballages ménagers en France. Entrons dans le concret tout de suite. Comment ça marche la chromatogénie ?
La chromatogénie, c'est un système qui permet de donner à de la cellulose. Hein, la cellulose, c'est du papier ou du carton. Donc, dès qu'on met de l'eau dedans, ça, bah, on va dire, ça pompe. Et l'idée là, c'est de dire, est-ce qu'on peut inventer des emballages en carton qui soient résistants, en gros, à l'eau et au gras, de façon à ce qu'on puisse faire des barquettes qui sont 100% recyclables. Parce qu'en fait, la cellulose, dès qu'elle est pure, elle a cet avantage-là d'être totalement recyclable, alors que parfois, on utilise des mélanges de carton et de plastique, voilà, qui sont recyclables, mais le rendement est un peu moins bon.
Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on met deux matériaux ensemble, et ben pour vous, recycleur, c'est un casse-tête.
C'est plus difficile quand il y a des multimatériaux. Donc, on recycle parfaitement le verre, on recycle le carton parfaitement, l'acier, l'aluminium. Et après, les résines plastiques, ça dépend. Il y en a qui sont parfaitement recyclables, ce qu'on appelle le PET. Et puis, il y a une partie, il y a 25% des résines plastiques qui sont des mélanges, en fait. Donc, vous pouvez avoir plusieurs couches de différentes résines ou de l'aluminium et du plastique. Et en fait, notre objectif, nous, ça s'appelle l'éco-conception. Et on travaille avec les entreprises pour ça, pour que finalement, on arrive à se rapprocher le plus du monomatériau, donc un seul matériau. C'est bien plus facile à recycler. Et c'est le cas, effectivement, là, de ce que vous citez, du carton avec la chromatogénie.
Et quel est le surcoût d'un matériau comme ça, sur lequel il y a des équipes de chercheurs qui travaillent? Globalement, est-ce que c'est plus cher pour les industriels d'utiliser des matériaux qui se recyclent mieux?
Alors, vis-à-vis de Citeo, parce que ce sont les entreprises qui mettent sur le marché des produits, qui assument la responsabilité et donc le coût de la recyclabilité de leurs emballages. En gros, plus l'emballage est recyclable, moins ça leur coûte cher.
Donc, un système de bonus-malus,
c'est ça ? Système qui est le tarif lui-même, ce qui nous paye, est éco-modulé. Donc, si vous avez du verre, c'est moins cher que du carton, qui lui-même est moins cher que le plastique. Parce que le plastique coûte beaucoup plus cher à recycler. Et en plus de ça, on a des bonus et des malus. Donc, le bonus, c'est quand vous faites quelque chose de bien, c'est-à-dire que vous allégez votre emballage ou vous le rendez plus recyclable. Donc, vous avez ce qu'on appelle un bonus. Et le malus, c'est l'inverse. Si vous mettez une bouteille, si vous faites une bouteille de soda en PVC, par exemple, vous allez avoir un énorme malus parce qu'en fait, le PVC, c'est très difficile à recycler. Et du coup, c'est une incitation pour les entreprises à réduire, parce que finalement, moins il y a d'emballages, moins elles payent, et avoir des emballages de plus en plus recyclés.
Et il y a un autre axe de travail très important pour Citeo, c'est celui de la réduction des déchets à la source. Mais ça ne dépend pas directement de vous, ça dépend des industriels, notamment par exemple dans l'agroalimentaire. Comment vous arrivez à les convaincre, à les emmener avec vous?
Bah déjà, moins il y a d'emballage, moins c'est cher. Enfin, je veux dire qu'au-delà de leur engagement en faveur de la protection de la planète, si vous prenez une bouteille, par exemple, en plastique, elle a perdu 40% de son poids dans les 10 dernières années. Moins de matière, donc moins de coûts pour eux en matière. Et en plus, moi, ils me payent moins, parce qu'en fait, moins c'est lourd, moins ils me payent. Donc en fait, ils ont un intérêt naturel à ce qu'il y ait le moins possible d'emballage. Après, l'emballage, personne n'emballe par plaisir. Il faut transporter des propriétés matières. Il y a des enjeux sanitaires qu'on connaît. Donc, on est un peu quand même obligé d'emballer, sauf si on va consommer en vrac ou acheter son jambon à la coupe.
Sauf si on a vraiment changé notre façon de consommer.
Exactement.
Ce qui est en cours pour beaucoup d'entre nous quand même.
Exactement. On voit bien qu'il y a un mélange. En fait, on peut, le vrac se développe de plus en plus. Nous, on travaille aussi sur le réemploi. Dans certaines circonstances, le réemploi est très bon. Après, il faut quand même recycler. Je veux dire, et aujourd'hui, on recycle 70% des emballages ménagers en France, 60% des papiers graphiques. On a un enjeu d'accélération. Et les deux gros sujets pour nous, c'est le plastique, parce que finalement, c'est le plus difficile. Alors, c'est le plus extraordinaire sans doute, mais c'est le plus difficile dans tous les domaines. Et le deuxième, c'est la ville, parce que finalement, on a un enjeu aussi de collecte. Et à la ville, on trie beaucoup moins bien qu'à la campagne. Et du coup, ça, c'est un enjeu pour Citeo.
Ça, c'est un paradoxe vraiment intéressant. Votre objectif, c'est 100% recyclabilité à terme?
Nous, c'est 100% solution. C'est-à-dire que c'est 100%, ça peut être du réemploi, ça peut être de la réduction, ça peut être de la substitution, ça peut être du recyclage, peu importe, mais c'est 100% solution pour qu'on soit dans une économie 100% circulaire et que l'impact de notre consommation sur la planète soit égal à zéro.
Notre coach, Gilles Van Der Potten, a une question pour vous, Jordan.
Oui, il y a quelques jours, il y a une grande marque de cosmétiques française que tout le monde connaît qui a annoncé vouloir réduire de 20% la quantité d'emballage de ses produits. Est-ce que vous observez en ce moment, dans le contexte particulier qui est le nôtre, où on est de plus en plus conscient du changement climatique et de ses causes, est-ce que vous observez un mouvement, une conscientisation au sein des entreprises qui s'accélère en ce moment même?
Ah oui, clairement. En fait, je pense que la pression de la société, des citoyens, des consommateurs, des pouvoirs publics, elle est impressionnante. Depuis, et là, on observe depuis 2 ans un mouvement très important. Donc moi, j'ai une pression colossale, parce que moi, je fais beaucoup de recherche et développement pour les entreprises. Une pression colossale des entreprises qui disent « moi, je veux des solutions ». Parce qu'en fait, j'ai un produit. Mon produit, je vais le mettre à disposition des consommateurs. Je veux une solution. Alors, ça peut être du recyclage, du réemploi, de la substitution, peu importe. Mais s'il vous plaît, apportez-moi la solution parce que c'est la condition dans laquelle je vais pouvoir continuer à exercer mon activité. Et cette pression-là, elle a pris une ampleur incroyable depuis 2 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces entreprises, ça fait 25 ans qu'elles ont pris cette responsabilité. Et on a créé le geste de tri, on a oublié ça. En fait, elles ont investi 10 milliards d'euros sur les 25 dernières années au titre de cette responsabilité. Si vous avez un bac de tri chez vous, il est payé largement par les entreprises et pas par le contribuable. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on bâtit sur... Il faut qu'on accélère, mais on bâtit sur quelque chose qui existe aujourd'hui, qui a été créé en France quand même il y a 25 ans.
En tout cas, merci Jean Ornain d'être venu dans nos studios aujourd'hui pour nous présenter un CIDEO et tous vos engagements autour de l'éco-conception. Et c'est pas terminé, hein. Il y a encore énormément de choses à dire autour de ces emballages. On va vers un monde peut-être carrément sans emballage, hein. On espère.
En tout cas, il faut que ce soit des ressources.
Merci à vous.
Il est 13h29. Europe 1.
Pas forcément connus, ils sont pourtant essentiels pour créer du lien. On les appelle des tiers-lieux, des endroits présents dans les territoires pour permettre de travailler, d'imaginer, de créer du lien social. La relance économique passe-t-elle par les territoires ? À plusieurs, on est plus fort. Et c'est ce que nous démontrent ces tiers-lieux. On va les découvrir. Restez avec nous.
On vous retrouve Elisabeth Assayag pour la suite de La France bouge sur Europe 1. C'est le moment d'ouvrir le dossier du jour et on va parler de ces espaces de travail collaboratifs qui participent à la reconquête économique et qu'on appelle les tiers-lieux.
Oui, des tiers-lieux. Et avant de vous montrer les bienfaits de tous ces tiers-lieux, Fanny, je me tourne vers vous. C'est quoi précisément un tiers-lieu ? Je vous demande ça parce que franchement, je suis honnête, on a fait un rapide sondage en préparant l'émission. Personne ne savait ce que c'était.
On est d'accord, le mot n'est pas joli,
non,
n'est pas
vrai.
Très parlant non plus, non, alors que la définition est simple, c'est un lieu pour faire des choses ensemble, pour travailler, pour innover, pour développer, pour imaginer, sans rester seul dans son coin, en étant avec les autres. Alors c'est un sociologue américain, Ray Oldenburg, qui le premier, dès 1989, a écrit sur l'importance de ces lieux hybrides. Non, c'est pas récent, mais ça s'est accéléré avec le développement, évidemment, du numérique. On n'est ni dans le public, ni dans le privé, on n'est ni dans le travail, ni en la maison.
C'est de l'hybride.
On est vraiment dans hybride et dans le collectif. Concrètement, ça regroupe toute une série d'espaces, de concepts que vous avez peut-être croisés par ailleurs. Les espaces de coworking, les Fab Labs, en français laboratoire de fabrication, les friches culturelles, les ateliers partagés où on peut faire réparer son vélo par exemple. Le point commun, c'est qu'ils sont ouverts à tous et qu'ils s'inscrivent aujourd'hui dans un monde où le numérique a vraiment beaucoup plus d'importance qu'avant.
Alors le numérique, ça a beaucoup plus d'importance qu'avant, on le voit dans ces espaces. Et est-ce que ces tiers-lieux trouvent de plus en plus sur place dans le paysage français. Bonjour Patrick Lévy-Weitz.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le président de l'association nationale France Tiers-Lieux. Ça a commencé déjà en 2018. Vous avez été en charge de faire un état des lieux des espaces de coworking en France. Au début, vous vous intéressiez au coworking. Et après, vous avez vu que ça se disséminait un petit peu partout.
Oui, le gouvernement m'a confié cette mission. Au départ, on parlait de coworking, un peu de Fab Lab, mais beaucoup de coworking. Et on parlait beaucoup de coworking parce qu'on parle en général de ces lieux quand on pense aux métropoles, aux 22 métropoles, hein, Paris, Lyon, Marseille, peu importe. Et en fait, l'objet de la mission que m'avait confié Julien de Normandie et le Premier ministre, c'était d'aller regarder sur le territoire ce qui se passait. Comment est-ce que ces lieux pouvaient jouer un rôle ou pas ? Et pour vous dire à quel point c'était inconnu, c'est que tous les experts français pensaient qu'il y avait à peu près 600 lieux en France.
Et il y en a beaucoup plus.
Et l'essentiel dans les métropoles. Et en réalité, sorti de la mission, c'est près de 2000 lieux qu'on avait recensé, c'était des lieux partout sur le territoire, près plus de la moitié dans les territoires ruraux et dans les villes moyennes, donc hors des métropoles. Et donc c'est un phénomène qui a émergé, venu des citoyens, exprimant le besoin des citoyens à faire autrement, à faire ailleurs, et donc à bâtir des lieux dont ça vient d'être très bien précisé, qui sont des lieux hybrides, qui sont des lieux d'innovation, qui sont des lieux de créativité, qui sont des lieux de travail, et que le numérique évidemment, accélère avec force le développement.
Alors vous parliez de besoin, mais quel est le besoin des citoyens ? Quelle est la motivation pour se réunir comme ça dans ces lieux qui ne sont pas des espaces de travail, qui ne sont pas des salles de sport ? Enfin, ce sont des lieux tout à fait particuliers, tout à fait singuliers. Quelle est leur motivation ?
Alors, il y a plusieurs types de motivation, mais je vais vous donner un exemple très frappant qui m'avait beaucoup frappé. Sainte-Foy-la-Grande, petite ville de Gironde, la plus petite ville, la ville la plus pauvre de Gironde. Petite ville qui est médiévale, qui est touristique et qui a un commerce ou deux commerces sur trois qui étaient fermés, qui avaient fermé, parce que ces villes moyennes se sont paupérisées.
Donc des zones désertes.
Des zones désertifiées. Et les citoyens ont envie de rebâtir quelque chose. Et dans ce lieu...
Donc un tiers-lieu est né dans cette...
Un tiers-lieu,
dans cette...
qui s'appelle Cœur de Bastide, ouais. Rendant leur hommage. Et là, des citoyens, de différents types de citoyens, d'acteurs, sont venus faire à la fois un lieu d'aide aux devoirs pour les enfants, un commerce, une librairie, et tout d'un coup, un café numérique.
Et tout d'un
un espace de working, et tout d'un coup, ça reprend vie. Et c'est ça le sens de ces lieux qui, dans les territoires, naissent. Mais par ailleurs, vous avez aussi, évidemment, une réalité. C'est qu'au carrefour des transitions que nous connaissons, numériques, transition écologique, et on parle beaucoup de circuits courts, vous savez, territoire où vous achetez vos légumes en proximité plutôt que de les acheter venant d'Espagne
ou d'Italie. Ce lieu pourrait être l'endroit pour réunir tous ces besoins actuels au carrefour du numérique et de la vie réelle.
Oui, absolument. Chaque territoire invente le lieu dont il a besoin. Chaque territoire exprime son empreinte propre au travers de la naissance de ces lieux. Vous faites pas le même lieu dans une ville, dans un village, même l'un à côté de l'autre. Et donc la question qui est, c'est comment faire vivre ces lieux dans le futur et comment faire émerger une réalité économique, une pérennité économique et donc une pérennité évidemment sociale aussi.
Et donc la relance économique redémarre au sein de ces communes isolées.
Absolument.
Fanny.
Absolument.
Oui, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que les tiers-lieux ont beaucoup souffert de la crise du coronavirus et ils en souffrent encore évidemment. Un seul chiffre pour comprendre la gravité de la situation, selon l'association La Vôtre, France Tiers-Lieux, 80% des tiers-lieux font face à un risque réel de fermeture à court ou à moyen terme. Mais c'est paradoxal parce que dans cette même crise du coronavirus, les tiers-lieux ont montré leur utilité sociale.
Oui.
Certains ont proposé du soutien scolaire, vous disiez, du portage de courses, de l'aide aux personnes âgées.
Même pour les CHU, vous avez énormément de CHU.
Sans compter tous ces Fab Labs qui ont travaillé sans relâche pour produire des masques, des respirateurs, des valves.
Absolument. 4 millions de pièces ont été réalisées dans les tiers-lieux, les Fab Labs, les ateliers partagés, des liens avec les CHU, les territoires d'industrie, les EHPAD pour apporter des visières. C'est donc l'expression d'un monde qui émerge.
Des pousses-seringues,
absolument. Ouais. Donc c'est un monde, une certaine façon, une nouvelle façon d'appréhender la vie collective, à mi-chemin entre l'économique et le social, qui s'est exprimé très fortement pendant la crise de Covid et qui, évidemment, fait émerger ça auprès des pouvoirs publics comme des acteurs d'hyper-proximité.
Et dont on a énormément besoin. Patrick Lévy-Veit, je vous présente Gilles Van Der Potten, notre coach, qui a une question pour vous.
Bonjour. Une question, oui, on parle de l'attractivité des territoires, des villes oubliées, des villes moyennes qui ne sont pas toujours très bien servies. Là, on voit un mouvement, ou on anticipe un mouvement de population vers peut-être ces territoires-là. Il y a une question d'attractivité des territoires. Est-ce que vous avez identifié des lieux qui pourraient bénéficier de la création de nouveaux tiers-lieux?
C'est-à-dire que des tiers-lieux puissent faire d'autres petits au sein du même territoire?
Non, que ça puisse être pour des villes moyennes qui aujourd'hui ne sont pas très très bien dotées.
Un véritable atout d'avoir un tiers-lieu.
Tout à fait. Mm-hmm. Où on voit des urbains qui vont peut-être se poser la question d'aller vivre, peut-être pas à Bordeaux, à Nantes
mais
ou à Lille, mais
plus...
à Maubeuge, à Laval, vous voyez.
Ce que cette crise fait émerger, c'est deux choses. Un, on comprend tous que le télétravail va devenir un mode opératoire pour tous, ou pour tous ceux qui peuvent travailler en télétravail. Premier élément.
Donc ces infrastructures, elles répondent à ce besoin de télétravail.
Exactement. C'est une infrastructure qui répond. Et deuxième élément, cette crise, elle a montré la fragilité de nos artisans, des indépendants sur les territoires. Et donc, nous pensons qu'au-delà de tous ces tiers-lieux qui existent, y compris des programmes qui ont été mis en place par le gouvernement, il y a une place très importante à trouver pour ce qu'on appelle des manufactures de proximité et sur le fait qu'on puisse redonner des outils partagés à des artisans, à des indépendants et dans lequel, évidemment, il y aurait un espace de télétravail et de coworking.
Et puis, vous parlez des artisans, des indépendants, il faut aussi parler de ces petits patrons. Hein. Quand même, 95% des TPE, ce sont souvent des personnes qui sont très seules. Oui. Et ça aussi, ça peut favoriser le développement de leur activité. S'ils se retrouvent dans un endroit où ils peuvent échanger sur un savoir-faire, sur une machine.
Je donne toujours l'exemple des tout premiers tiers-lieux qui a eu lieu et d'espace de coworking qui a eu lieu il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, et qui avait dans le Perche, la mutinerie, qui dans le Perche a fait se rencontrer une filière bois et un designer. Un designer qui était venu habiter dans un petit village et une filière bois. Et puis est née de là une entreprise de design du bois.
C'était un mini tiers-lieu.
C'était un mini tiers-lieu et c'est exactement ce qui est éprouvé aujourd'hui dans les tiers-lieux. Vous savez, si les grandes entreprises viennent faire des prototypes dans les tiers-lieux aujourd'hui, c'est vrai de Safran, c'est vrai, ça a été de beaucoup de grandes entreprises. On commençait à utiliser ces lieux d'innovation et de création et de créativité pour y faire des objets, pour faire des prototypes. C'est bien qu'elles apportent quelque chose en termes d'innovation et de création tout à fait nouveau. Et donc, moi, ma conviction, notre conviction, c'est qu'y compris sur la question transition écologique, je parlais des circuits courts, vous avez une capacité de recyclage. Vous parliez de recyclage il y a un instant sur votre antenne. Les circuits de recyclage passeront par les tiers-lieux à l'évidence, par ces lieux qui sont hybrides et qui permettent précisément aux citoyens de rapporter et qui sont locaux en hyper proximité.
En termes d'argent, vous en avez, comment vous financez ?
Alors, dans les grandes villes, dans les grandes métropoles et dans les villes où il y a suffisamment de clients, si je peux même permettre ce terme-là, en réalité, il y a un modèle économique. Là, quand vous êtes sur les territoires, en général, la plupart du temps, c'est un modèle hybride dans lequel la puissance publique et le privé se réunissent dans un modèle de gouvernance partagée et dans lequel l'activité est possible et l'économie, l'équilibre économique devient évidemment beaucoup plus facile.
Fanny, pour développer les tiers-lieux, il faut de l'argent. Hein. Vous avez regardé là-dessus.
Oui, et précisément, c'est les régions et les départements qui sont vraiment en première ligne pour pousser des projets sur leur territoire. Si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous avez une idée de tiers-lieux, regardez autour de chez vous quelles sont les collectivités qui peuvent vous aider. Il y a des appels à projets qui sont vraiment lancés tous azimuts en ce moment. J'en donne un seul pour exemple. En Île-de-France, l'objectif fixé est d'avoir 1000 tiers-lieux d'ici l'année prochaine. La région veut promouvoir en particulier les initiatives qui viendront de grandes banlieues ou de zones politiques de la ville pour réduire les inégalités avec Paris. Mais vous le disiez, pour financer les tiers-lieux, il n'y a pas que les subventions et les aides publiques. Ces structures peuvent aussi proposer de louer des salles, quelques euros par mois pour les associations par exemple, ou de faire des formations payantes en plus du soutien scolaire qui lui serait gratuit. L'idée, ce n'est pas de devenir des lieux lucratifs, on sortirait de la philosophie des tiers-lieux, mais bien d'atteindre une sorte d'équilibre économique et une partie d'autonomie évidemment.
On va en parler là justement des territoires. On va aller en Occitanie juste après une petite pause. Merci à vous Patrick Lévivette. Je rappelle que vous êtes le président de l'association France Tiers-Lieux.
Il est 13h43. Europe 1.
Travailleurs indépendants, start-upers, télétravailleurs, la région Occitanie a créé un label pour distinguer les meilleurs tiers-lieux sur leur territoire. Et on va en parler, à tout de suite.
Jusqu'à 14h, la France bouge sur Europe 1 avec vous Elisabeth Assayag. Et depuis 13h30, on parle de l'émergence de ces lieux bien particuliers qu'on appelle les tiers-lieux, qui redynamisent les territoires et qui participent à la relance économique. Nouvelle façon d'appréhender la vie collective, comme le précisait votre premier invité.
Oui, en région Occitanie, c'est désormais facile de trouver des espaces de travail partagés, collaboratifs, qui permettent de se réunir sans être forcément dans les locaux d'une seule et même entreprise. C'est très efficace pour les travailleurs indépendants, mais aussi pour les auto-entrepreneurs ou les tout jeunes entrepreneurs qui se lancent, qui ont des projets. Bonjour Christiane Mathieu.
Bonjour.
Merci d'être en direct sur Europe 1. Vous êtes la directrice déléguée croissance et entrepreneuriat à l'ADOC, l'Agence régionale de développement économique d'Occitanie. Votre région a mis en place tout un réseau régional pour valoriser ces fameux tiers-lieux dont nous parlons aujourd'hui grâce à une cartographie qu'on peut consulter. On vous a mis en place un site internet tierslieuxoccitanie.com qui nous permet donc de trouver le meilleur tiers-lieu qui correspond à l'envie de chaque entrepreneur.
Exactement, exactement. La région Occitanie a lancé dès 2018 en fait la déclinaison d'une politique volontariste sur la prise en compte des initiatives locales. Alors on vient de le voir, c'est la valorisation de l'ensemble des territoires. Carole Delga y était très attachée. Trouver des solutions alternatives au tout métropole, ça passait par valoriser l'initiative et donc ces nouvelles formes hybrides de travail. Nous avons labellisé un certain nombre de tiers-lieux sur 3 ans. Avec objectif d'atteindre le 100% dans quelques années. Voilà.
Mais donc pourquoi un label, c'est quoi ce label? Quels sont les critères? Parce qu'on a l'impression qu'une fois qu'on trouve une usine désaffectée ou un local, ça peut faire office de tiers-lieu.
Oui, alors il faut un peu aussi donner de la valeur et de la visibilité à ceux qui font le maximum d'efforts, comme tout label. On parle d'harmonisation, de valorisation d'une offre de service. C'est un gage de qualité pour les usagers. Alors on n'aime pas trop utiliser ce mot parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu sur les tiers-lieux, les usagers, c'est vaste. C'est les travailleurs indépendants, c'est les télétravailleurs, ce sont aussi les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Et donc on va retrouver un certain nombre de publics et chacun, en fait, a besoin d'avoir des informations sur les horaires, sur est-ce qu'il y a ou pas un accueil physique, est-ce qu'il y a évidemment un accès Internet au débit, est-ce qu'on a un espace de convivialité, de réunion, des postes de travail adaptés, enfin, des locaux conformes, évidemment, au droit du travail. Et tout ça, sous un label, ça donne quand même beaucoup plus d'attractivité.
Que dit notre coach, Gilles Van Der Potten?
Bah déjà, je suis toujours très heureux de voir que l'Occitanie, ma région, bouge.
Oui,
j'ai identifié sur votre site, donc tierslieuoccitanie.com, l'espace de travail le plus proche de chez moi. Alors, il se trouve à Cologne, dans le Gers, à 25 km de chez moi. Et j'étais agréablement surpris parce que c'est un village de 900 habitants. Oui, et je me demandais, voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de tierslieux dans des villages de cette taille? Est-ce que économiquement ça s'avère viable ou est-ce que ça tient grâce à des subventions aujourd'hui?
Bien sûr, c'est ce que disait tout à l'heure Monsieur Patrick Lévivette. C'est un modèle économique hybride qui se cherche encore. Donc on est forcément porté par la puissance publique et puis par les initiatives privées. Nous on le voit, nos membres en fait ont des modèles assez différents et on va travailler justement sur ces réflexions-là, sur comment est-ce qu'on peut pérenniser les modèles économiques des tiers-lieux partout sur les territoires parce que les problématiques sont très différentes d'un espace à l'autre.
Oui.
Fanny, oui, il y a plein d'exemples de réussite de tiers-lieux en zone rurale. À Vaisseau, près d'Aubenas, en Ardèche, c'est un ancien couvent devenu maison de retraite qui a été reconverti sur 1200 m² en lieu de travail et de création.
C'est original.
Son nom, c'est Vaisseau-Mer. Et à Bélac, en Haute-Vienne, c'est l'atelier du Palais qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines tout juste, soutenu par l'association Famille Rurale. Il propose des espaces de travail et des lieux intergénérationnels. Quand on se souvient qu'un village sur deux en France n'a plus de commerce de proximité, on le disait, les tiers-lieux auront sans doute un grand rôle à jouer dans l'avenir.
C'est le cas chez vous, Christiane Mathieu. Il commence à prendre de plus en plus. Déjà, le fait d'avoir créé un label, c'est que ça prend une importance particulière.
Oui, je crois qu'on est la deuxième région, je crois qu'on la Normandie peut-être, mais en tout cas voilà, l'Occitanie a voulu être fer de lance de ce concept-là, parce que c'est important, c'est vraiment important, le circuit court, le travail de proximité, et puis alors on le voit évidemment que les tiers-lieux ont souffert du Covid, mais comme toute organisation, exactement. On a quand même 86% des tiers-lieux labellisés qui ont repris juste après le confinement, qui proposaient des postes de travail et qui ont permis de donner des solutions alternatives aux gens qui ne pouvaient pas reprendre en présentiel et
donc,
qui avaient envie
être...
de sortir du home office, parce que je tiens quand même à préciser que
le home office,
le télétravail et le home office
travailler
c'est
à la
même chose. Voilà,
donc vous faites aussi faites office d'accueil pour les personnes qui sont encore en télétravail. Vous pouvez les accueillir dans les lieux, dans les tiers-lieux en Occitanie.
Cette forme sert à rentrer en contact avec les tiers-lieux pour demander et réserver des postes disponibles. Alors c'est pareil, c'est des formes de travail d'organisation qui sont émergentes, qui nécessitent aussi de travailler avec les DRH, les directions des ressources humaines des grandes entreprises. Mais je pense qu'aujourd'hui, le chantier va s'ouvrir et va être facilité. Je pense qu'il faut saisir l'opportunité et bosser avec eux. L'Agence de développement économique Occitanie va s'y employer parce que voilà, c'est l'objectif, c'est de leur donner de l'attractivité.
Christelle Mathieu, il y a des directeurs de tous ces tiers-lieux. Est-ce qu'ils ont des compétences particulières dans l'entrepreneuriat ou dans un savoir-faire particulier, parce que comme vous réunissez énormément de métiers, comment on dirige un tiers-lieu? Qui choisit?
Eh bien, alors c'est une concertation évidemment avec les collectivités hein, qui vont donner l'orientation. Un coworking, c'est pas un Fab Lab. Et aujourd'hui, oui, on a des espaces aussi qui sont hybrides et qui vont. Alors, on est sur les métiers de l'accompagnement. En fait.
Mais comment on fait pour que ce soit pas, un désordre organisé ? Comment on fait pour qu'il y ait une vraie direction et une direction commune dans un tiers-lieu particulier ?
Là, quand même, aujourd'hui, on a des nouveaux métiers. Alors, effectivement, c'est vrai que ce sont des nouvelles compétences, mais qui sont une déclinaison des métiers de l'accompagnement aux entreprises et donc à ces espaces d'hôtels d'entreprise, en fait. Hein. On est sur les nouvelles générations où on a des espaces pluri-activités qui vont aller, justement, de l'intégration de porteurs de projets jusqu'à du Fab Lab, en passant par de la pépinière d'entreprise et puis, pourquoi pas, l'accueil de personnes physiques privés, je veux dire, enfin des usagers. Notre travail au niveau du réseau, pour le coup, hein, c'est aussi de leur donner les moyens de grandir, de mutualiser les moyens, d'échanger les bonnes pratiques et de les former.
Vous professionnalisez en quelque sorte ces tiers-lieux. Merci à vous, Christelle Mathieu, directrice déléguée Croissance et Entrepreneuriat, l'Agence régionale de développement économique d'Occitanie. Si vous recherchez un tiers-lieu en Occitanie, eh bien vous pouvez consulter le site tiers-lieux au pluriel. Occitanie.com. Merci à vous.
Il est 13h51.
Europe 1.
À suivre, direction Autrèche dans les Hauts-de-France, un lieu pour favoriser les innovations rurales et citoyennes. À tout de suite.
Vous écoutez La France bouge avec Elisabeth Assayag et on parle de l'émergence du développement des tiers-lieux dans les territoires. Et on a vu il y a quelques minutes que la région Occitanie s'engageait.
On a tous envie d'aller en Occitanie, là.
C'est ça clair. Et on va continuer d'en parler encore un petit peu.
Oui, nous sommes toujours avec notre coach du jour, Gilles Van Der Poten, directeur de Reporters d'Espoir, avec Fanny Rascle de la rédaction d'Europe 1. La direction Autrèche avec vous, Latifa Danfaka, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes donc à une heure de Paris environ. Vous êtes la cofondatrice de l'Ermitage. L'Ermitage, c'est un tiers-lieu d'innovation rurale et citoyenne. Vous avez ouvert vos portes officiellement il y a 3 ans, c'est ça, en septembre 2017 ?
Exactement, en septembre 2017, après une vaste campagne de financement participatif.
Votre première campagne.
Voilà, c'est ça, qui nous a permis donc, à la fois de tester donc, l'idée que l'on avait de pouvoir mettre en place ce lieu autour des transitions, donc la transition agroécologique, la transition énergétique, le vivre ensemble global et le numérique. Et puis, à côté de ça, un temps également qui nous a permis de tester l'ensemble de nos activités sur le terrain.
Alors, on y fait quoi à l'Ermitage ? Parce que vous parliez de transition écologique, mais concrètement, dans vos missions, qu'est-ce qu'on y trouve et que peut-on faire, que peut-on apporter à votre tiers-lieu ?
Alors, l'Ermitage, on y fait, bon, vous l'aurez compris, hein, les tiers-lieux, on y fait énormément de choses, oui, ce sont des espaces hybrides. Donc, à la fois, nous avons une micro-ferme écologique, donc nous produisons des fruits, des légumes que nous distribuons en circuit court, notamment grâce à une AMAP que nous avons créée à côté. Suite à ça, nous proposons également des activités culturelles pour petits et grands liées donc, aux grands thèmes de transition. Donc ça va de la conférence, du ciné-débat, des ateliers pour petits et grands. Et puis, bien entendu, à côté de ça, parce que c'est aussi un lieu où l'on accueille des entrepreneurs ruraux, notamment pour rompre l'isolement.
Leur solitude.
Exactement, leur solitude en tant qu'entrepreneur en territoire, nous leur mettons à disposition donc, des espaces, des ateliers, des bureaux, des boutiques. Et nous avons créé un système de compagnonnage où nous leur proposons des services de pair à pair.
Mais alors, c'est immense l'Ermitage pour faire tout ça.
Alors, l'Ermitage, c'est 30 hectares, ah c'est ouais. une vingtaine de bâtiments, c'est des bois et des forêts à perte de vue, et ce sont des terres agricoles. Donc, en effet, c'est un lieu extrêmement vaste. Alors, aujourd'hui, nous sommes 25 à y travailler au quotidien avec bien entendu un socle communautaire d'un peu plus de 200 personnes.
Et il y a combien de personnes qui viennent régulièrement chez vous bénéficier de tout ça et pour contribuer aussi ?
Alors depuis l'ouverture de l'Ermitage, donc en 2017, nous avons accueilli près de 3500 personnes qui venaient donc soit en séjour court parcours pour donc bénéficier de nos activités, de
ça,
nos services.
Ça, ils vous le disent en avance. Si par exemple, une personne veut venir pour, je ne sais pas, pour créer son entreprise, pour rompre cet isolement du jeune entrepreneur, comment il fait ?
Alors, comment on nous contacte ? De manière assez simple. En fait, un tiers-lieu a toujours ses portes ouvertes. Donc, l'idée, c'est aussi de venir frapper à la porte et puis de proposer son projet. Nous, on les accompagne également dans leur cheminement réflexif et on voit comment on organise sur place. Et après ça, bien entendu, on a un site internet, nos adresses e-mail sont ouvertes également. Donc, vous pouvez nous contacter pour pouvoir venir sur site.
Mais chacun d'entre vous qui est à temps plein dans ce tiers-lieu, vous avez une compétence particulière pour les accompagner ?
Oui. Oui, oui.
Vous êtes complémentaires, c'est ça ?
Là, c'est exactement ça. La particularité du tiers-lieu Hermitage, c'est que l'ensemble des fondateurs viennent d'horizons extrêmement divers. Donc, vous avez eu, au moment de la création de ce collectif, des artistes, des journalistes, des ingénieurs, des consultants d'innovation comme moi, des anciens fonctionnaires, des travailleurs sociaux qui se sont tous mis autour de la table pour pouvoir créer cet espace de liberté et d'expérimentation autour des transitions. Parce que c'était, on va dire, le dénominateur commun qu'on avait tous, entre nous tous. Ça qui nous permet d'accompagner les personnes de cette manière-là.
Et vous évoluez sans cesse parce que vous avez un projet, je crois, en septembre pour les jeunes décrocheurs scolaires aussi.
Absolument.
Gilles, il y a une question pour
oui,
vous.
L'Hermitage, oui, c'est très grand. 21 bâtiments, donc des rénovations, 25 personnes qui travaillent, donc des salaires. Est-ce que vous avez un modèle économique ? Vous financez ça comment ?
Absolument. Et donc, c'est très bien parce que mes collègues précédents, on en parlait. Chaque tiers-lieu donc, est différent et chaque tiers-lieu a un modèle économique à part. Nous avons fait le choix d'équilibrer dès le départ, donc dans la conception de nos activités, dès le départ, intérêt collectif, donc intérêt commun et rentabilité financière, en tout cas sobriété financière.
Vous louez des bureaux ?
Donc, on loue des bureaux, en effet, pour nos compagnons. 21 hectares, 21 bâtiments, ce sont également des espaces que l'on met à disposition pour des séminaires d'entreprise. Donc, on accueille des professionnels en séjour inspirant. On propose également.
C'est quoi les séjours inspirants ?
Les séjours inspirants, ce sont des temps que l'on propose donc, à des professionnels pour à la fois s'immerger au sein de notre communauté, de notre collectif, pour aller à leur rencontre et puis derrière ça, découvrir un certain nombre d'activités. Donc, typiquement, on a de l'aquaponie sur place. Donc, vous pouvez venir en tant que professionnel apprendre à faire votre propre système aquaponique, à mettre dans votre salon. Vous pouvez apprendre le béaba de la permaculture sur place. Vous pouvez également.
C'est très varié.
Voilà, c'est
très
extrêmement varié.
Fanny, on parle des tiers-lieux. On a l'impression que ça peut être réservé aux
jeunes
mais branchés
pas du tout,
et qui ont envie
du
de
tout.
Faire du télétravail. Les seniors y ont toute leur place.
Oui, ce qu'il faut vraiment dire, c'est que dans ces lieux hybrides, il y a vraiment des activités très diverses, on l'a vu, et ça s'adresse également aux personnes plus âgées. C'est le cas, par exemple, en Seine-Saint-Denis. L'équipe de la France Bouge a repéré que ce département lançait un appel pour créer 25 tiers-lieux destinés spécifiquement aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Des tiers-lieux baptisés « Autonomie dans mon quartier » contre l'isolement et pour l'inclusion. On l'a vu pendant cette crise du Covid, c'est vraiment important. Alors pour l'instant, c'est une page blanche, mais on pourrait imaginer des cafés associatifs, des maisons intergénérationnelles, des cours de sport, pourquoi pas.
Plein de choses, plein de choses. Merci à vous, Latifa Danfaka, cofondatrice de l'Hermitage.
Merci beaucoup.
Vous terminez votre seconde campagne de financement participatif à la fin du mois de juillet. C'est la fin de votre émission. Gilles, on vous retrouve demain. Vous êtes toujours dans
plaisir.
Le rôle du coach. Fanny, à demain.
À demain.
Et demain, nous parlerons de ces vacanciers qui doivent faire face aux gestes barrières et vous allez voir qu'il y a des tas de communes qui se bougent aussi pour que les vacanciers puissent profiter de leurs vacances en toute sérénité. À demain.